Ma prochaine invitée est docteure en communication et elle s'intéresse depuis un bon moment aux médias sociaux, aux normes sociales et particulièrement du point de vue des adolescents. Elle vient de publier son premier essai chez Éco-Société intitulé « Texter, publier, scroller », un livre qui nous amène au cœur de l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes avec leur code, l'impact des plateformes sur leur vie et comment ils arrivent à maintenir un équilibre sain entre leur identité numérique et leur bien-être. Pour en parler, on rejoint l'auteur à l'instant. Bonjour Emmanuel Parent.
Bonjour.
Emmanuel Parent, vous êtes très présente quand vient le temps de parler de l'utilisation des réseaux sociaux par la jeune population. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet-là?
Bien, ce qui m'intéresse, il y a des études en communication. Initialement, c'était tout le côté marketing. Fait que quand on va sur Google puis on écrit comment utiliser les réseaux sociaux, immédiatement, qu'est-ce qu'on voit? C'est comment avoir plus de vues, comment avoir plus d'abonnés. Puis on parle pas vraiment de bien-être. On parle plus de productivité. Mais à l'inverse, quand j'en parlais avec mes amis, j'entendais quand même un certain malaise par rapport à notre utilisation personnelle. Puis d'autant plus quand on parle des plus jeunes encore, on a tendance historiquement à juger beaucoup les jeunes puis leurs nouvelles habitudes. Mais on les juge des fois sans leur parler. Donc moi, je me suis dit, je vais aller avoir la conversation avec eux, là, aller d'une salle d'ados, une salle d'enfants, puis leur demander, mais c'est quoi vous, votre opinion? Ça va-tu si mal que ça? Puis qu'est-ce qui va bien?
Et aujourd'hui, vous lancez « Texte publié et scroller ». Est-ce que dans le livre, vous vouliez partager cette discussion-là puis votre réflexion sur cette situation-là?
Oui, tout à fait, parce que les réseaux sociaux, quand même qu'on soulève des défis associés à leur utilisation, sont là pour rester. Hein, on s'en débarrassera pas. Puis pour les jeunes, ben ils sont nés avec ces outils-là, donc même s'ils utilisent tous les jours, surtout de leur côté, ils en parlent pas nécessairement entre eux. Donc moi, je me suis dit, ben c'est là que je vois l'utilité d'un adulte dans le portrait. Moi, je vais aller les écouter chacun dans leur utilisation, forcer ces questions-là, puis leur transmettre après qu'est-ce que leurs amis ont dit. Parce qu'ils vont pas nécessairement jaser entre eux de combien de temps tu passes par jour là-dessus, y a-tu du contenu qui t'impacte, par quelle étape. Tu sais, c'est pas populaire de dire j'ai pris 50 photos puis j'en ai publié juste une. Donc, je me suis dit, ben sous le couvert de l'anonymat, j'invite les jeunes à s'ouvrir à moi, puis après, je vais le partager aux autres pour normaliser un peu toutes ces situations-là qu'on vit chacun dans notre coin.
Et vous, quand vous avez eu le fruit de cette cueillette, est-ce que ça vous a surpris les réponses que vous avez eues?
Ce que ça m'a surpris, ce qui m'a surpris, c'est vraiment la sensibilité. Je m'attendais pas à ce que les jeunes soient aussi sensibles à toutes les interactions sociales des autres. Tu sais, tous les petits détails comme telle personne a vu mon message mais m'a pas répondu. Tous les genres de politesse qui existent en ligne, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi normé. Puis je pense qu'en tant qu'adulte, on a beaucoup à apprendre de ces politesses-là qui existent chez les jeunes où eux sont dans une partie de leur vie où ils se font des amis, les relations sont souvent au cœur de leur identité. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Donc ça m'a surpris à quel point ils étaient attentifs aux sentiments des autres.
Ouais. Mais est-ce qu'on va jusqu'à parler de la pression des pères par ce code de vie numérique-là?
Oui, je pense que vous le voyez bien. En fait, c'est l'autre côté de la médaille. D'un côté, c'est le fun d'être sensible aux autres. Puis de l'autre côté, ben ça peut être difficile de se retrouver soi là-dedans. Donc, un exemple, si je vois que tout le monde a l'air de publier à Noël, qu'ils font des activités dehors, qu'ils partent en ski, puis que moi, c'est pas mon cas, ben peut-être que je peux me sentir mal, puis peut-être que je vais forcer une marche dehors, même si dans ma famille, c'est pas une tradition qu'on a, puis faire un post, puis sentir peut-être qu'on m'encourage, puis on like quelque chose que moi, j'ai pas nécessairement aimé. Donc, c'est sûr que ça crée beaucoup de conflits, beaucoup de contradictions à l'intérieur de soi, cette influence qui peut devenir une pression.
Vous avez mentionné le mot tout à l'heure, puis je vais revenir là-dessus parce que c'est important. Et c'est entre autres ce que je ressors dans ma lecture. Vous parlez c'est votre concept du bien-être numérique. C'est quelque chose qui est important pour vous, ça?
C'est super important parce que je trouve qu'on prend trop souvent pour acquis que les réseaux sociaux, c'est juste des outils. Mais c'est pas juste des outils neutres. C'est des plateformes, c'est des chercheurs, c'est des gens super intelligents qui travaillent à avoir notre attention et pour qui notre bien-être... C'est pas ça la priorité. C'est pas qu'ils sont méchants les réseaux sociaux, mais eux, ils veulent qu'on regarde du contenu. L'effet que ce contenu-là a sur comment qu'on sent, ils savent pas. Même la montre intelligente, là, elle sait pas si je suis de bonne humeur ou pas de bonne humeur quand je regarde un contenu. C'est pour ça que ça me tient à cœur, le bien-être numérique, parce que ça vient finalement de notre charge individuelle, mais aussi avec nos pères, nos amis, notre entourage, de le prendre puis d'essayer d'en faire quelque chose, d'avoir une utilisation qui nous convient. Parce que si on laisse ça aux mains des plateformes, ben là, c'est sûr qu'on va scroller puis qu'on va regarder beaucoup de contenu vraiment plus longtemps que ce qu'on voulait initialement.
Ça a quoi comme impact sur l'identité du jeune aujourd'hui?
Les études scientifiques sont, ils disent un peu tout et son contraire pour ça, mais c'est sûr que les réseaux sociaux vont jouer un rôle dans le développement de l'identité parce qu'on va réfléchir à comment est-ce qu'on se présente aux autres, comment on se présente publiquement. Et puis ça, ben, ça met des questions de est-ce que je vais montrer certaines choses que j'aime, que je sais qui ne seront pas populaires auprès des personnes qui fréquentent mon école, ou au contraire, est-ce que à l'école, on n'a pas l'occasion de me voir faire de la musique, donc je vais faire exprès de partager ce que je crée sur YouTube pour que mes amis puissent le voir. Donc, ça fait que je crois que les jeunes sont très proches de qui ils sont puis de l'image qu'ils projettent aux autres, peut-être plus que quand avant les réseaux sociaux, avant le téléphone, quand ce que les gens voyaient de nous, c'était comment on était habillés quand on allait à l'école. Là, ça l'ouvre plus toutes les possibilités. Puis je dirais aussi, oui, quand les jeunes publient, mais aussi quand ils voient les autres. Tu sais, on va dire, est-ce que les jeunes font de l'éco-anxiété, ils se parlent d'environnement, mais en même temps, c'est qu'à nouveau, maintenant qu'on a un téléphone, les jeunes, ils ont une vision sur tout, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, les ados, là, ils savent qu'est-ce qui se passe à Rafah en ce moment, et les bombardements, et Israël, Palestine, l'Ukraine, les changements climatiques. Donc, ils sont sensibles aussi à tout ça à cause des réseaux sociaux.
Intéressant ce que vous dites parce que je me souviens qu'il y avait des sociologues qui disaient la même chose de ma génération à moi. Moi, je fais partie de la
Ah
première vague
oui.
de la génération X. Il y avait la télévision en direct. Et c'était la première fois qu'il y avait une génération de jeunes qui voyaient ce qui se passait. La première famine en Éthiopie, on l'a vu à la télé. Il y a longtemps, là, je parle des années 70. Mais là, les jeunes aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24 en direct avec des témoignages qui viennent de là dans certains cas et de là la pression qui est sur eux.
Oui, puis j'aime ça que vous fassiez le lien entre quand vous étiez jeune avec la télé puis la famine parce que l'histoire se répète. Puis là, on parle juste des années 70, mais même avant ça, quand on parle du télégraphe, quand on parle de l'écriture, que
De
ça
la
allait
radio, de la
être de
musique,
la
oui.
radio, de la musique, c'est tout le temps quelque chose qu'on peut voir aussi dans le futur avec l'intelligence artificielle, avec les prochaines technologies, pour se rappeler que avec les jeunes, on peut vraiment plus se connecter que qu'est-ce qu'on pense des fois. Puis c'est ça, je l'ai illustré aussi en mettant pas juste moi, une madame qui parle, mais en mettant plein de témoignages de jeunes que les gens puissent, en faisant cette lecture-là, faire leur lien avec leur identité à eux, avec leur histoire quand ils étaient jeunes, puis voir finalement qu'on se ressemble beaucoup plus des fois que qu'est-ce qu'on pense.
Leur approche des réseaux sociaux, est-ce qu'elle est différente selon le genre?
Ben, comme dans la vie de tous les jours, en face à face, hors ligne, il y a des différences, il y a des tensions entre les genres. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a le féminisme, que là, on parle de est-ce qu'il y aurait une crise de c'est quoi la masculinité? Donc, toutes ces questions-là, ben, le web est pas hermétique à ça. Le web est souvent une extension du monde social en face à face. Donc, évidemment que ça se poursuit là-dessus. Donc, si on est en tant que garçon, on sent qu'il faut qu'on s'entraîne puis qu'on doit être un homme sportif, mais ça se peut que les algorithmes de TikTok qui analysent que tous les petits gars de 15 ans, ils regardent des vidéos d'entraînement, qu'on s'en fasse proposer. Puis à l'inverse, si on est une fille, ben ça se peut qu'on se fasse proposer des vidéos avec le hashtag Bad Girl qui mettent en scène des filles dans un environnement super propre, qui boivent des jus, puis qui s'entraînent, puis qui ont du beau linge. Donc oui, il y a des dynamiques de genre, mais là où des fois je trouve que c'est limité de parler en termes de différence de genre, c'est disons pour les parents qui vont assumer que ah ben moi ma fille elle joue pas aux jeux vidéo donc il y a pas de problème, ou mon garçon il parle pas tant sur Instagram à ses amis donc il y a pas de problème parce que il y en a quand même, donc ça vaut la peine des fois d'effacer les dynamiques de genre, même si pour les chercheurs, c'est super intéressant, puis de juste aller parler avec l'enfant de comment tu utilises les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu suis, c'est quoi le contenu que t'aimes, c'est quoi les jeux qui t'attirent, puis là, ça risque d'être plus personnalisé puis moins basé sur des généralisations.
Vous avez mentionné les parents. Dans ce contexte-là, après les discussions que vous avez eues avec leurs jeunes, vous leur dites quoi aux parents?
Ah, de s'intéresser à ce qui se passe en ligne pour les enfants. Puis je dis s'intéresser, être curieux, puis je fais attention à mon vocabulaire pour pas que ce soit surveiller, interdire. Parce que c'est aussi une opportunité pour les parents d'en apprendre plus sur leurs jeunes. Tu sais, si on remarque que notre ado, elle regarde plein de vidéos de danse, eh ben je savais pas qu'elle aimait ça à ce point-là. Bon, ben peut-être qu'on va aller l'encourager, on va aller la voir faire des shows de danse, on va l'inscrire peut-être à quelque chose si on a les moyens puis que c'est abordable. Même chose, les garçons qui vont jouer beaucoup aux jeux vidéo, les ados vont nous dire, ben mes parents, ils savent pas à quoi je joue. Mais ils jouent chaque jour. Donc, de pas se dire, ah, c'est juste des jeux vidéo, mais de s'asseoir, de c'est quoi les règles, d'essayer de jouer avec au pire. Puis également de se rappeler que on peut aussi s'en Tu sais, on peut s'envoyer des vidéos adultes, ados, et on peut trouver des trucs drôles. Tu sais, on peut l'utiliser pour unir notre relation plutôt que la diviser. Ça serait un peu ça, un conseil que je trouve qu'on n'entend pas souvent. Tu sais, on entend souvent qu'il faut réglementer le temps écran, puis mettre des règles, puis je suis bien entendu d'accord avec tout ça, mais avant tout, s'intéresser à l'enfant, ça passe par le numérique aussi.
C'est drôle, hein? Il y a 30 ans, c'est ce que je racontais aux parents quand l'Internet est arrivé. Je leur disais, oui, vous pouvez voir comment ils utilisent l'Internet, mais quel beau prétexte pour savoir ce qui les intéresse. Puis là, on était au web 30 ans plus tard, c'est les réseaux sociaux.
Oui, puis j'ajouterais, tu sais, un petit peu qu'on est habitué de le faire, on dirait quand les enfants sont tout petits. Tu sais, pas plus loin qu'en fin de semaine, je faisais semblant de m'intéresser que ma nièce aime Stella, puis que l'autre aime Chase, puis tous les personnages de la Pat' Patrouille, moi,
non,
je les
vous,
connais, j'écoute
vous faisiez
pas ça.
Pas semblant, vous vous intéressez.
Ah ben oui, c'est ça, non, c'est ça, je faisais vraiment pas semblant. Mais donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on arrête? Ben oui, Fortnite, ça a peut-être l'air insipide, mais la Pat' Patrouille aussi, ce qui est pas insipide, c'est que c'est quelque chose qui passionne l'enfant, puis avec lequel on peut connecter avec lui.
Ah oui, s'il passe autant d'heures, c'est parce qu'il y a une passion là. Emmanuel, en terminant, qu'est-ce que vous espérez accomplir avec ce livre-là? Qu'est-ce que vous souhaitez laisser comme message?
Ah, j'espère laisser comme message avec le livre que faut qu'on se parle ensemble parce que c'est là qu'on a le plus de contrôle sur notre utilisation. C'est en ayant des conversations sur notre utilisation, en prenant pas pour acquis que tout le monde l'utilise pareil, en prenant pas pour acquis que ça a leur place, que ça l'a dans notre vie puis qu'on se pose pas de questions, que ça va bien. Je veux qu'on en parle ensemble. C'est une utilisation qui est souvent individuelle. Donc, oui, là, on lit des témoignages, mais autour de la table, qu'on discute de ce qu'on suit, de ce qui nous stresse, de ce qu'on aime, pour décloisonner un peu cette utilisation-là. Parce que dans ma thèse, c'est ça que j'ai trouvé aussi, c'est que plus on a une utilisation qui est individuelle, plus c'est là qu'on est soumis à la, vous me permettrez, manipulation, entre guillemets, des plateformes qui veulent faire des profits. Puis quand on utilise ces plateformes-là pour connecter puis pour se parler, ben c'est là qu'on rapporte avoir le plus de bénéfices. Donc, j'espère que ça va pousser les gens à avoir des conversations sur leur utilisation.
Ben, je vous le souhaite. Puis déjà, cette conversation qu'on vient d'avoir, je pense que ça va dans ce sens-là. Emmanuel Parent, je rappelle, vous êtes docteur en communication. Vous venez d'écrire texte publié et scrollé. C'est disponible aux éditions Éco-Société. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup.